Doha, Afrique. Les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Libreville. Bienvenue à notre journal. En Mauritanie, une trentaine d'islamistes emprisonnés à Nouakchott ont annoncé aujourd'hui avoir entamé une grève de la faim illimitée pour réclamer l'amélioration de leurs conditions d'incarcération, qui se sont dues aussi, selon eux, après l'évasion de détenus djihadistes. Les prisonniers exigent notamment des visites de leurs parents sans entrave et la fourniture des médicaments prescrits en temps opportun. Ils estiment que des mesures punitives ont été prises contre eux depuis la fuite de Salek Oulchek, un djihadiste mauritanien condamné à mort en 2011 pour action terroriste après l'opération à la voiture piégée par Al-Qaïda au Maghreb islamique qui visait à assassiner le président Mohamed Ould Abdelaziz. Saled Oulchek s'est évadé de la prison centrale de Nouakchott le 31 décembre 2015 et il est toujours en cavale. Un détenu saoudien de la prison américaine de Guantanamo a été rapatrié dans son pays, portant à 103 le nombre de détenus restants dans le camp sur l'île cubaine. John Lindon.
Mohamed Chamrani, 40 ans, est arrivé en Arabie Saoudite d'après Gary Ross, un porte-parole du Pentagone. Il était détenu depuis 14 ans à Guantanamo après avoir été fait prisonnier fin décembre 2001 pour avoir combattu l'offensive américaine contre les talibans. Il était accusé d'avoir été un recruteur pour Al-Qaïda et peut-être un garde du corps d'Oussama Ben Laden. Le Pentagone estime que l'ancien détenu devra participer dans son pays à un programme de réintégration et de réhabilitation auquel est associée sa famille. Guantanamo, créé en janvier 2002 sur l'île de Cuba, après les attentats du 11 septembre 2001, près de 779 personnes ont été emprisonnées à Guantanamo. Mi-décembre, le Pentagone avait annoncé le transfert des 17 prisonniers et il ne restera que 90 détenus dans ce camp. Le président Barack Obama avait, dès son premier mandat, fait de la fermeture de cette prison une promesse, mais s'est résigné à signer à la fin novembre la loi de défense 2016 qui renouvelle en particulier l'interdiction de fermer Guantanamo.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, l'annonce du retrait du contingent congolais de la MINUSCA, la mission onusienne sur place, est diversement appréciée. L'ambassadeur de la RDC à Bangui, Esdras Kambale Baekwa, dit que son pays prend acte de la décision de l'ONU tout en déplorant la manière avec laquelle elle a été prise.
Que ce soit les autres forces au sein de la MINUSCA, que ce soit au niveau de la population de la République centrafricaine, le contingent de la RDC est très apprécié. Je voudrais mettre à défi quiconque pourra me contredire. Mais ce contingent travaille sous l'ONU. C'est lui le mari. Quand il dit qu'il n'a plus besoin de sa femme ou d'un enfant, qu'est-ce que vous voulez que la RDC puisse faire? La RDC plie bagage et rentre au village. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas de cette façon qu'il faut remercier un contingent qui a travaillé et qui a bien travaillé. On me parle de cas de violence sexuelle, abus sexuels. Ben, un contingent de 800 personnes. Pour 4 cas d'abus sexuels et qui ne sont pas avérés, que nous, la RDC, nous n'avons pas accepté. On remballe tout est contingent. Nous sommes tous des Africains. Nous comprenons. Il doit y avoir beaucoup d'en dessous des cartes.
Esdras Kambale Baekwa, ambassadeur de la RDC à Bangui. En RDC même, 7,5 millions de personnes, soit près de 9% de la population, sont frappées par une crise humanitaire aux proportions massives. L'ONU estime à 690 millions de dollars cette année les besoins de la population congolaise. Eric Manirakiza.
Selon le plan de réponse humanitaire 2016 pour la RDC, publié hier par l'ONU, les personnes déplacées sont particulièrement vulnérables et sont souvent accueillies par les foyers démunis. La moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Choléra, paludisme, rouge jaune et fièvre hémorragique font des ravages, a écrit l'organisation internationale. Le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires prévoit 690 millions de dollars pour assister 6 millions de personnes cette année sur 7,5 millions de personnes dans le besoin, soit près de 9% de la population du pays. L'est de la RDC demeure la partie la plus frappée avec plus de 1,6 million de déplacés internes l'an passé. Mais la situation de conflit en Centrafrique, au Soudan du Sud et au Burundi risque d'engendrer de nouveaux besoins humanitaires avec l'afflux de nouveaux réfugiés vers le Congo, a déploré l'ONU.
Burundi, le prix de la presse diplomatique 2015 a été attribué au journaliste burundais Esdras Ndikumana, correspondant de l'agence France-Presse et de la Radio France Internationale au Burundi. Le journaliste a reçu son prix des mains du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Vivant aujourd'hui en exil au Kenya, Esdras Ndikumana est particulièrement touché de recevoir ce prix qu'il a dédié à tous ses confrères burundais.
Je disais donc, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de voir le travail accompli au cours de ces dernières années reconnu, une telle reconnaissance par les confrères journalistes français qui ont reconnu le travail que j'ai fait sur le terrain pendant cette dizaine d'années. Donc je suis vraiment ému, satisfait, mais aussi c'est un sentiment de partage avec mes confrères burundais qui sont sur le terrain, qui ont travaillé dans les mêmes conditions et qui pour la plupart ont été obligés de fuir le pays. Je parle des journalistes, des médias indépendants. 90% ont fui le pays, il en reste 10% qui travaillent dans des conditions épouvantables parfois, et donc je leur dédie ce prix.
Revenons un petit peu à vous, après avoir été tabassé par les services de renseignement, vous vivez maintenant en exil au Kenya. Peut-on aujourd'hui faire son métier de journaliste au Burundi ?
Ça dépend de ce qu'on attend par son métier de journaliste. On veut vraiment travailler librement, faire son travail comme on l'attend, c'est-à-dire professionnellement, dans toute conscience, déontologie, c'est plutôt difficile. Bon, il y a des journalistes de la radio nationale qui travaillent, il y a des journalistes de certaines radios sont plutôt proches du pouvoir qui travaillent, mais ce n'est pas vraiment du travail, c'est un autre genre de journalisme. Si on veut faire son travail correctement, honnêtement, c'est très difficile aujourd'hui au Burundi parce que les conditions ne le permettent pas.
Quelle est pour vous la situation des libertés individuelles au Burundi et une sortie de crise est-elle encore possible ?
Sur les libertés, c'est vraiment, je suis abasourdi, je suis totalement anéanti en voyant comment le pays a reculé. Ce qui s'est passé depuis que le président Nkurunziza a décidé d'obliger le troisième mandat, il y a eu des manifestations qui se sont transformées en insurrection armée, suite notamment à la répression très très forte qui avait frappé les manifestants. Et puis aujourd'hui, donc, on assiste un peu à la naissance de nouvelles rébellions au Burundi. On a déjà basculé dans la guerre civile, je ne peux pas le dire tout à fait, mais si on n'a pas encore basculé, on en est proche. Alors, la situation des droits de l'homme et des libertés civiques a totalement régressé. Le Burundi, sur le plan, par exemple, de la liberté de presse, la liberté d'expression, elle était arrivée à un point très satisfaisant, un peu en avance de tous les autres pays de la région. Les organisations de la société civile étaient très actives. Aujourd'hui, tout ça est parti en lambeaux, tout ça a été cassé. C'est grave ce qui se passe dans le pays sur ce plan-là, à cause justement de toutes ces violences. Alors, la sortie de crise au Burundi aujourd'hui, je pense qu'il n'y a qu'une seule voie possible dans ce pays aujourd'hui, c'est la voie des discussions, la voie de la négociation, ou comme on dit au Burundi, la voie du dialogue interburundais. Il faut qu'on passe par là. Il faut qu'on arrive à s'entendre, il faut que les parties en conflit arrivent à s'entendre pour qu'on sorte de ce conflit avant que la crise ne s'aggrave.
Le journaliste burundais Esdras Ndikumana, joint à Paris par Claire Morin-Gibault. Et actualité américaine pour terminer, le président américain Barack Obama prononce ce soir son ultime discours sur l'état de l'Union face au Congrès réuni au grand complet. Le chef de l'exécutif est déterminé à mettre en valeur son bilan, mais aussi à livrer sa vision de l'Amérique au-delà de 2016, Anne Albertson.
Pour le 44e président des États-Unis, ce rendez-vous traditionnel est la dernière occasion de s'adresser aux Américains en prime time, avant que Washington et le reste du pays ne basculent complètement en mode électoral. Candidat démocrate et républicain à la présidentielle s'apprête en effet à entrer dans le vif du sujet, avec le début des primaires le 1er février dans l'Iowa. Axe attendu du discours présidentiel, le rebond de l'économie et le chemin parcouru depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2009, pendant la plus grave crise depuis les années 1930. Le tableau est loin d'avoir impressionné Donald Trump, en tête dans les sondages du côté républicain. Le milliardaire a dressé un bilan autrement plus sombre des années Obama. « Le pays ne va pas bien », a-t-il lâché. « Nous sommes assis sur une énorme bulle prête à exploser ». À 12 mois de son départ et face à un congrès dominé par les républicains, le président Obama veut assurer qu'il a toujours le pied au plancher. La Maison-Blanche en donne pour preuve une série de succès sur des dossiers emblématiques, nucléaire iranien, libre-échange en Asie-Pacifique ou encore changement climatique, avec l'accord de Paris en décembre.
Et pour terminer, en Turquie, au moins 10 personnes tuées et 15 blessées dans une forte explosion aujourd'hui. Les causes de l'explosion demeurent inconnues pour le moment. L'incident s'est produit sur le site historique de Sultanahmet, le cœur touristique d'Istanbul. Merci de votre attention. Oui, oui.